Et le journal est présenté par Nicolas Ballu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le train et les infrastructures ferroviaires, nouvelle cible privilégiée de l'armée russe en Ukraine. Moscou annonce avoir bombardé un train de matériel occidental. La Russie veut paralyser les approvisionnements militaires. Les explications d'Étienne Monin dans un instant. Aux États-Unis, le mouvement de contestation des étudiants pro-palestiniens continue sur les campus. En France, certains locaux de Sciences Po sont occupés. Le mouvement peut-il s'étendre? Élément de réponse avec Stéphane Robert. La question du nombre d'agents privés pour assurer la sécurité des JO. Une nouvelle fois posée, malgré les déclarations rassurantes de Laurent Nunez, les professionnels du secteur restent très prudents. Dans ce journal, nous nous intéresserons également au marché de la démoustification, à l'heure où le moustique-tigre revient. Le journal Les Échos a un nouveau directeur de la rédaction, Christophe Jacubizine. À la fin d'un an de poste vacant, les réactions avec Benoît Grossin. Et puis dans ce journal également, plongé dans le milieu de l'ultra-droite avec Frédéric Mettezo, ce sera le dossier de ce 18h. Alors que les États-Unis ont enfin débloqué leur aide militaire et que les prochaines semaines seront encore très difficiles pour l'armée ukrainienne, la Russie intensifie ses frappes. Elle a aujourd'hui revendiqué le bombardement d'un train avec des armements occidentaux et des équipements militaires dans la région de Donetsk. Ces jours-ci, Moscou vise particulièrement le réseau ferroviaire ukrainien, prélude à une possible offensive d'ampleur. Étienne Monin.
Et cette annonce sonne comme une réponse au soutien américain. Les États-Unis viennent de débloquer une enveloppe de 61 milliards de dollars. Il y a deux jours, le département d'État a révélé aussi que des missiles longue portée avaient déjà été livrés et utilisés par deux fois par les Ukrainiens. Moscou n'a pas donné de détails sur le bombardement du train. Ces dernières semaines, les frappes sur les sites et les infrastructures ferroviaires se sont intensifiées. Hier, trois régions ont été touchées, à Donetsk, Kharkiv et Tcherkassy. Le train en Ukraine est un important moyen de déplacement. Il concerne les personnes, la logistique, les militaires. Depuis l'invasion russe, le trafic aérien a été paralysé. Un haut responsable ukrainien, cité par l'agence France-Presse, pense que la Russie cherche à paralyser les approvisionnements militaires après avoir visé les installations énergétiques. L'armée ukrainienne craint une offensive russe avec l'arrivée des beaux jours et le changement de physionomie du terrain. Le président Zelensky estime que Moscou est parvenu à prendre la main sur le champ de bataille pendant que les États-Unis tentaient de débloquer leur aide militaire. Les Britanniques, de leur côté, ont noté une progression de l'armée russe sur le front dans la région de Donetsk.
Et puis à noter cette évacuation de deux hôpitaux à Kiev en prévision de bombardements de l'armée russe. La guerre de la Russie en Ukraine serait difficile sans le soutien de la Chine, lâche Anthony Blinken depuis Pékin. Le secrétaire d'État américain est en visite en Chine. Il a été reçu par le président Xi Jinping. Autre petite phrase lâchée par Anthony Blinken, à usage intérieur cette fois. Les manifestations sur les campus américains font partie de la démocratie. Signe que le mouvement étudiant de soutien aux Palestiniens à Gaza a parti il y a un peu plus d'une semaine de l'université de Columbia et qui s'est généralisé aux États-Unis enflamme le débat politique et suscite la préoccupation de l'exécutif américain. Les images de tentes installées à travers les campus pour dénoncer le soutien militaire des États-Unis à Israël et la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, celle d'arrestation dans certaines universités à Los Angeles, à Boston, à Austin par exemple, ont largement nourri la polémique. L'université de Columbia, quant à elle, a ajourné la date limite de vendredi fixée aux étudiants pro-palestiniens pour évacuer le campus, signe d'une certaine détente. En France, c'est Sciences Po Paris qui attire les regards, une dizaine de tentes installées dans l'établissement avant que la police n'intervienne mercredi, mais la mobilisation se poursuit avec l'occupation de locaux historiques de l'école. Ce matin, la ministre chargée de l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau a soutenu l'intervention demandée mercredi et appelle à la responsabilité.
Sciences Po est un lieu de débat, c'est clair. L'administrateur est en train de dialoguer pour voir comment effectivement donner un cadre raisonnable de débat. Mais là, les lignes rouges sont franchies. Je rappelle quand même qu'il s'agit de 50 étudiants qui bloquent l'accès de l'établissement aux 15 000 autres étudiants de Sciences Po. Donc moi, je soutiens l'administrateur qui essaye d'avoir ce dialogue. Mais quand on ne peut pas avoir un dialogue raisonné, eh bien, je soutiens les présidents d'université, les directeurs d'école dans leur prise de décision. Lorsque cela est nécessaire, ils ont les pouvoirs de police, on l'a vu, ils savent l'appliquer. Lorsqu'effectivement, le cadre du débat respectueux, du débat républicain, n'est pas respecté.
Sylvie Retailleau sur BFM TV ce matin. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Comment ce mouvement a enflammé Sciences Po et est-il susceptible de s'étendre ?
Oui, derrière cette mobilisation de plusieurs dizaines d'étudiants à Sciences Po, il y a d'abord des militants de la France insoumise. Ils ont invité et reçu Jean-Luc Mélenchon en début de semaine. Celui-ci a donné une conférence dans les locaux de Sciences Po lundi soir. Et aujourd'hui, ils se font le relais du combat porté par le chef de file des insoumis à travers la défense de la cause palestinienne. Jean-Luc Mélenchon multiplie actuellement les déplacements sur cette thématique dans les campus universitaires. Son idée est de mobiliser les abstentionnistes, de les inciter à aller voter aux élections européennes du 9 juin prochain. Et ceux-ci sont particulièrement nombreux chez les jeunes et au sein de la population d'origine maghrébine dans les quartiers situés en périphérie des grandes agglomérations. Et puis le deuxième élément, c'est le lien qu'entretient Sciences Po Paris avec l'université de Columbia aux États-Unis. Les deux établissements sont partenaires, il y a de nombreux échanges. Or, l'université de Columbia à New York est le théâtre depuis quelques jours d'une forte mobilisation du mouvement pro-palestinien. C'est aussi le cas à Harvard, dans le Massachusetts, et à Philadelphie, en Pennsylvanie. Ce qui rencontre donc un écho tout particulier ici, à Paris. Ce sont donc ces deux éléments, la campagne électorale et l'activisme des insoumis, et puis le lien avec les États-Unis, qui font que la cause palestinienne mobilise aujourd'hui une partie des étudiants de Sciences Po Paris.
Merci Stéphane Robert. Les agents de sécurité privée seront un maillon essentiel du dispositif de sécurisation des prochains Jeux Olympiques à Paris, aux côtés des 45 000 policiers et gendarmes mobilisés. Mais seront-ils assez nombreux ? Hier, le préfet de police de Paris, Laurent Nouniès, a assuré qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Mais les représentants de la branche sécurité privée restent vigilants, disent-ils. Le secteur est en tension depuis la crise du Covid-19 et selon les organisations patronales, il manque toujours 8000 agents pour combler les besoins journaliers des organisateurs. Les précisions d'Anne Fauquemberg.
Tony Estanguet, le président du COJOP, le comité d'organisation des JO, assurait hier que 98% des besoins en sécurité privée avaient été sécurisés. Mais selon le GES, le groupement des entreprises en sécurité privée, ce chiffre correspond en réalité au nombre de marchés passés par l'organisateur et non pas à un taux de recrutement d'agents. Cédric Paulin est le secrétaire général du GES.
Il y a environ 10 000 salariés qui ont été identifiés par les entreprises de sécurité privée pour participer aux JO. Mais ça veut bien dire identifier. Elles ont été appelées, elles sont dans leurs fichiers, et donc les entreprises pensent que ces personnes-là seront là. Mais pour les JO, comme le COJO annonce qu'il faut en moyenne environ 18 000 agents par jour, bah vous voyez qu'il y a encore 8 000 personnes à identifier. Il faut absolument pas relâcher les efforts, il faut même plutôt les accélérer.
Pour cette dernière ligne droite, tout se joue au niveau de la formation. Un parcours dit grands événements a été créé par la branche il y a quelques mois pour les Jeux Olympiques. Une formation de 3 semaines pour poser le cadre réglementaire d'intervention et apprendre les gestes de base, comme la palpation. 2400 personnes ont déjà été diplômées avec une moyenne de 300 personnes par mois environ. Le GES estime qu'il faudrait monter la cadence à 800 entrées en formation par mois jusqu'au mois de juillet pour tenir les objectifs. Une autre organisation patronale, la Fédération française de la sécurité privée, demande au service de Matignon d'orchestrer une grande campagne de communication en ciblant spécifiquement les étudiants, d'autant plus que la branche a étendu la validité de la carte professionnelle issue de la formation à 5 ans au lieu de quelques mois initialement.
6 personnes considérées comme des membres influents de la secte La Grande Mutation comparaissent depuis le début de la semaine devant le tribunal correctionnel de Paris. Elles sont poursuivies pour abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine pour l'une d'elles. Dans les années 2000, le mouvement dirigé par un ancien chercheur du CNRS, aujourd'hui décédé, avait réussi à attirer dans ses filets quelques 200 fidèles, dont plusieurs familles qui se sont constituées partie civile. Elles ont été les premières à s'exprimer, à décrire l'emprise ces jours derniers. C'est désormais au tour des prévenus, Florence Turm.
Une voix envoûtante s'impose dans la salle d'audience, extrait de l'un des séminaires organisés par la Grande Mutation. Claire, sèche tes larmes, on parle d'émergence. C'est ça le symbole, le continent perdu. C'est l'émergence. La présidente cherche à comprendre ce qui anime les adeptes, la méthodologie par le pendule dont parle l'un des prévenus, poursuivi pour abus de faiblesse. À quoi ça sert de faire ça ? À déterminer sa résonance avec le métal qui est lui-même relié à une planète. Ah, c'est formidable, lâche la magistrate. Mais quand on est profane, cela paraît un peu compliqué. Compliqué également à ce stade de l'audience de déterminer le rôle précis de ceux qui sont poursuivis. L'un d'eux, informaticien titulaire d'une maîtrise de physique, a rencontré Étienne Guillet, le fondateur de la secte, à une conférence organisée à la Sorbonne. Il le retrouve ensuite à un salon du bien-être avant de prendre part au séminaire où il se charge de l'accueil des participants, également de récolter les enveloppes où ils glissent leurs contributions. Longue barbe grise, chevelure épaisse attachée dans le dos, Jérôme Lacoste, lui, a croisé Étienne Guillet à la fac au cours de ses études de biologie. Il signe des articles dans la revue de la Grande Mutation centrée sur les énergies vibratoires éternelles. « Mais je n'ai jamais cherché à être une caution scientifique pour le mouvement », se défend-il. « Je ne suis le lieutenant de personne. » De même qu'il se dit opposé au versement financier, « Je découvre qu'il y a des gens qui veulent donner des sommes folles et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. » Face au tribunal, ses certitudes semble vaciller un peu. Je suis touchée par ce qu'ont dit les parties civiles et je retourne tout cela dans ma tête. Ce que j'ai fait a-t-il conduit à certains excès ? Je continue à me poser la question.
Florence Turm, depuis le palais de justice de Paris, le procès va durer jusqu'à la fin de semaine prochaine. Surveillance renforcée à Mayotte après l'identification de 3 cas de choléra autochtone. Ce sont les premiers à découler d'une contamination interne au département. Une 10aine de cas importés avaient été recensés au mois de mars. À l'inverse, cette étude très encourageante de l'Institut Pasteur et de l'Agence Santé Publique France, testée massivement cet hiver dans plusieurs pays comme la France, le Befortus de Sanofi, proche d'un vaccin, s'avère éviter nombre d'hospitalisations de bébés pour bronchiolite grave, plus précisément 5800 hospitalisations après passage aux urgences lors de la dernière épidémie, selon Santé Publique France. Comment s'organise le marché de la démoustication en France? Alors que le moustique-tigre qui transporte des virus dangereux comme la dengue ou le chikungunya sort de sa période d'hibernation, la question est vraiment d'une actualité brûlante, on dira piquante ce soir. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Nicolas.
Il faut distinguer, Tara, la démoustication dite de confort et ce qu'on appelle la lutte antivectorielle. La première est du ressort des départements qui veulent souvent éliminer une nuisance. La seconde, la lutte antivectorielle, s'attaque aux moustiques parce qu'ils posent un problème de santé publique. Et dans ce deuxième cas, Tara, la lutte est confiée aux ARS.
Oui, depuis 2019, les agences régionales de santé doivent passer par un appel d'offres pour désigner l'opérateur qui va d'abord surveiller, pister les nouvelles espèces de moustiques, documenter aussi la progression du moustique tigre, etc. et ensuite intervenir s'il y a un cas de dengue signalé. Pour l'instant, les opérateurs historiques ont remporté l'essentiel des marchés publics. Mais 3 entreprises privés ont aussi réussi à décrocher quelques régions. Grégory Lambert, entomologiste médical à l'EID Méditerranée, le gros opérateur public du sud de la France, interroge cette mise en concurrence.
On voit qu'il y a des effets de compétition sur un travail qui est un travail de santé publique. Donc le fait de se retrouver dans une logique de profit, de rendement, de choses comme ça, c'est pas quelque chose qui était dans l'ADN des opérateurs historiques. Donc demain, on peut imaginer que ça sera une société américaine qui fera la lutte antivectorielle. C'est un peu curieux, quand on a vu arriver le moustique tigre, heureusement qu'en France, il y avait des entomologistes et des opérateurs des moustications parce que c'est eux qui ont pris en charge le risque dengue, chik et zika. Et on ne parlait pas de marché, là on parlait de services rendus, de protection des populations.
Guillaume Lacour est lui aussi entomologiste. Il a cofondé l'entreprise Altopictus, agréée par plusieurs ARS et sélectionnée dans 32 départements. Il assume la logique de rentabilité propre au privé.
Alors oui, de toute façon, c'est aussi l'avantage du marché public, c'est que ça crée de la compétition qui va permettre de diminuer les coûts. Après, la difficulté avec ce type de marché public, c'est qu'on est payé à l'action. Et des années de forte épidémie, par exemple, il faut que le budget des ARS puisse suivre.
Des ARS qui, pour certaines, dépensent 1 million d'euros par an dans la lutte antivectorielle. Et encore, c'est parfois insuffisant, pointe Grégory Lambert. Et dans ce cas, l'opérateur public a l'avantage de pouvoir redéployer ses agents.
L'avantage, bon, pour nous, c'est d'avoir un système un peu mutualisé et étendu. Hein. Finalement, c'est un peu comme des pompiers. Si les pompiers des Bouches-du-Rhône sont saturés, les pompiers du Var vont venir les aider, puis les pompiers de l'Hérault, du Gard, et voilà. C'est comme ça qu'on arrive à éteindre les gros incendies. Et on nous prédit des gros incendies.
Et effectivement, rien que depuis le mois de janvier, Nicolas, on a dénombré 1680 cas de dengue importés en France, soit 12 fois plus que l'année dernière.
Merci Tara Schlegel. En France, le quotidien Les Échos, qui était sans directeur de la rédaction depuis plus d'un an, eh bien, l'anomalie est réparée avec la nomination à ce poste de Christophe Jakubizine, ancien présentateur et ancien directeur de la rédaction de BFM Business. Benoît Grossin, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et à tous.
La prise de fonction de Christophe Jakubizine a été approuvée hier soir par une très large majorité des journalistes.
Elle signe la fin de la crise ouverte en mars 2023 par l'éviction du directeur de la rédaction Nicolas Barré et elle confirme les droits inscrits dans les statuts des Échos pour l'indépendance de ses journalistes vis-à-vis de l'actionnaire, le géant LVMH du milliardaire Bernard Arnault. Le PDG du groupe Les Échos, le Parisien Pierre Louette, s'est en tout cas, lui, réjoui ce matin sur France Info de ce qu'il considère comme un nouveau départ.
On est très content qu'on soit sorti de cette phase-là. Et puis au fond, c'est tout un processus de gouvernance qui a bien fonctionné, dans lequel Antoine Arnault a eu un rôle important. Il a été très impliqué dans cette solution. Et puis on a eu une rédaction en chef qui était assez responsable tout le temps, c'est-à-dire qui a travaillé, qui a fait un peu une sorte de permanence. Par contre, ce qui est tout à fait vrai, c'est que un nouveau projet impliquant complètement la rédaction aux Échos, c'était pas tout à fait possible. Donc on prend ce nouveau départ, on s'appuie sur le socle qui est très costaud, qui a été constitué. Et puis, on va aller de l'avant.
Et cette nomination de Christophe Jakubizine est bien plus qu'un soulagement pour la présidente de la Société des journalistes des Échos, Laïla de Comarmont.
C'est une victoire parce que le message de la rédaction a été entendu par l'actionnaire. Christophe Jakubizine, devant l'ensemble des journalistes de la rédaction, a pris des engagements extrêmement forts sur le fait de nous permettre à tous de pouvoir faire notre travail en toute indépendance. C'est la preuve que ce type de droit, qu'il soit d'agrément ou de veto d'ailleurs, qui est essentiel pour préserver l'indépendance des médias, ce type de droit n'est pas un frein au fait d'avoir à la tête d'une rédaction quelqu'un de compétent et qui puisse mener toute l'équipe, le collectif, afin de faire progresser encore le journal.
Le nouveau directeur de la rédaction des Échos, Christophe Jakubizine, prendra ses fonctions dès ce lundi 29 avril.
Merci Benoît Grossin. Arrêtons-nous ce soir sur l'ultra-droite et ses militants. Leurs rassemblements se sont multipliés ces derniers mois. Par exemple à Romans-sur-Isère, après le meurtre du jeune Thomas tué à coups de couteau. Mais il y en a eu d'autres, notamment à Paris. Bonsoir Frédéric Mettezo.
Bonsoir à tous.
Vous êtes journaliste à la cellule Investigation de Radio France. Pendant 6 mois, vous avez observé l'activité de ces militants sur les réseaux sociaux. Vous en avez même rencontré certains et vous avez constaté qu'ils étaient de plus en plus visibles et décomplexés.
Oui, décomplexé avec de véritables appels à l'insurrection comme le 16 mars dernier. Nous sommes sur le média Géopolitique Profonde, sur YouTube, très prisé à l'ultra-droite. Celui qui parle est un ancien capitaine de gendarmerie, Alexandre Juvin-Brunet.
Il faut préparer les esprits au combat. Nous allons peut-être devoir, eh bien, nous réapproprier les pensées, méthodes utilisées par les résistants qui étaient avant tout des combattants l'arme à la main.
Cette mobilisation, elle n'a pas échappé aux autorités et à ce cadre haut placé de la police que nous avons rencontré. Il suit de très près les groupes radicaux. Il a souhaité rester anonyme, donc nous avons fait lire ses propos.
L'ultra-droite monte en puissance et en dangerosité. Elle est réorganisée et elle se montre plus facilement car les échanges sont plus faciles via les réseaux sociaux. Il y a un risque de passage à l'acte, on n'est pas à l'abri d'une attaque de mosquée.
Un risque de passage à l'acte. Frédéric, vous avez découvert des véritables petits manuels de l'activiste.
Oui, nous avons pu nous abonner à une boucle privée Telegram dont le logo est explicite. C'est une croix gammée. Écoutez le type de message qu'on peut y trouver, là encore, lu par un journaliste.
Équipez-vous et armez-vous. Mais même si ce sont des armes détenues légalement, ne communiquez pas sur votre arsenal, ni en ligne, ni aux autres membres de l'équipe. Plus il y aura des équipes, plus les capacités de surveillance du pouvoir seront saturées.
Appel à la rébellion et à la violence contre les militants de gauche, dénonciation de l'IVG et de la transidentité, rejet de l'islam et des immigrés, ce sont les obsessions de l'ultra-droite, tout comme l'antisémitisme. Le jour de la mort de Robert Badinter, des militants se déchaînent, y compris l'Action française, qui est pourtant un mouvement autorisé. Ces propos, qui peuvent tomber sous le coup de la loi, citent, ouvrez les guillemets, l'ordure, l'infâme Badinter, des mots violents mais qui permettent de mesurer ce qui se joue en coulisses.
Alors, ces activistes qui semblent donc plus menaçants sont-ils pour autant plus nombreux ?
Alors non, selon nos informations, leur nombre est stable. Environ 3000 personnes constituent le noyau dur, dont 1200 sont fichées S. Mais ce qui est nouveau, c'est la convergence entre différents groupes qui jusqu'ici ne se fréquentaient pas. Catholiques intégristes, identitaires et nationalistes révolutionnaires type GUD, eh bien désormais, ils se connectent sur les réseaux sociaux et ils se retrouvent ensuite sur le terrain. Hors structure, c'est l'un des effets indésirables des dissolutions administratives ordonnées par le ministre de l'Intérieur, selon le député de la majorité, Éric Poulia, auteur d'un rapport sur les mouvements radicaux.
Ils sont capables de se retrouver sur un événement et de montrer qu'ils sont nombreux. Il y a des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui viennent d'horizons différents. Ça fait un rassemblement à 500, 1000, 1500 personnes, alors que voilà, il y a quasiment la moitié des troupes de tout le pays qui est là. Et les identitaires, d'ailleurs, se chargeaient un peu de la com, et il y avait après un peu les autres qui étaient un petit peu plus costauds, voilà, pour faire, si besoin était, le coup de poing.
Et au ministère de l'Intérieur, nos interlocuteurs ne s'en cachent pas, les dissolutions administratives sont souvent une première étape avant de porter devant la justice, cette fois-ci, d'éventuelles reconstitutions de ligues dissoutes.
Merci Frédéric Mettezo. Votre enquête est à retrouver sur radiofrance.fr. Le temps demain, il est assez simple, il fera gris sur toute la France, excepté en Alsace et sur la pointe sud-est. Les températures sont inchangées de 9 à 12 degrés au nord jusqu'à 14 degrés dans le sud. Ce journal est désormais terminé. Il a été préparé avec Jean-François Braun.